Le sujet de notre étude est un rapport direct avec Rosh Hashanah. D'ailleurs, de manière générale, le séminaire d'Eloul. Nous avons comme sujet, c'est la création du monde aujourd'hui, ce qui est un peu paradoxal. Notre sujet est un sujet classique ce soir, c'est la création, pourquoi faire? Bon, c'est une question qu'on se pose souvent, qu'on entend souvent lors de l'adolescence. Il y a des questions adolescentes, telles que pourquoi Dieu a créé le monde. Il y a également des questions telles que Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne pourra pas soulever? Et la question du libre arbitre en opposition avec la connaissance que Dieu a des choses à l'avance. Ce sont en général les trois questions métaphysiques posées par les jeunes adolescents. Ce sont des questions d'ailleurs sérieuses qui méritent d'être étudiées. Le problème est de savoir que lorsqu'on se pose la question de savoir, quand quelqu'un pose des questions sérieuses, la question est de savoir quelle est la véritable question qu'il pose. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours la question que l'on croit qu'on pose, que l'on pose vraiment. C'est-à-dire, il y a souvent, ça peut commencer par la question « Pourquoi Dieu a créé le monde ?» Et puis quand on gratte un peu, on se rend compte, oui, j'ai une copine. Et donc, il faudrait, c'est une investigation à faire, pour savoir qu'est-ce qui vraiment est la question posée. En général, quand un jeune homme me pose la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde, en général, je réponds, mais qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas pour rejeter l'interrogation, mais le problème est de savoir... pourquoi, effectivement, tu poses la question? C'est-à-dire, peut-être que tu poses en fait autre chose. C'est donc une question qu'il faut élucider. Ça ne nous empêche pas, bon, de prendre la question au sérieux. Il est très intéressant, quand on veut étudier dans les sources du judaïsme la raison de la création du monde, de voir d'emblée la réponse donnée par Maïmonide, Rambam. Le Rambam est très net sur ce point de vue-là. Il dit qu'il est inutile de chercher une réponse à cette question. Il dit même que c'est presque une ineptie. Parce que si on donne une raison de la création du monde, la question qui se posera, c'est mais quelle est la raison de cette raison? Et donc, il est inutile de chercher une raison à la création du monde, une finalité au monde. Maïmonide nous dit, le monde porte sa finalité en lui-même. C'est l'existence même du monde qui est la finalité de l'existence du monde. C'est presque une tautologie. Et bon, alors c'est très gênant. Quand on étudie le Rambam, on n'aime pas ce genre de réponse. C'est choquant. Ça choque la conscience religieuse. Il y avait même un historien juif du nom de Zev Yahavetz au XIXe siècle qui avait écrit un livre en 11 volumes sur l'histoire juive, Divrei Yemei Israël. Et dans le volume consacré à la pensée médiévale, il attaque Maïmonide. Et il accuse Maïmonide d'avoir une inclination hellénistique. C'est-à-dire Maïmonide aurait été entraîné par les Grecs. Et il fait une liste d'opinions de Maïmonide qu'il considère comme étant grecques. Surtout Aristote, mais enfin de manière générale, comme relevant de la pensée grecque. Et dans la liste des opinions qu'il attribue à une influence hellénistique chez Maïmonide, eh bien, il y a également cette idée-là que le monde n'a pas pour finalité l'homme. Alors que d'après le Rav Zev Yahavetz, c'est l'homme qui est le centre du monde, c'est pour lui que tout a été créé, d'après la Torah. Et donc si Maïmonide dit le contraire, c'est qu'il a été entraîné un peu loin de la tradition. En réaction à, à ce chapitre du livre de Yahabetz, le Rav Kook a écrit une réponse dans laquelle il réfute point par point les arguments de Yahabetz, entre autres celui-ci, c'est ça qui nous intéresse. En préalable, le Rav Kook fait remarquer une chose très importante, c'est que il dit qu'il faut remercier Maïmonide d'avoir exprimé son opinion à une époque antérieure à la révolution copernicienne. Et c'est pour une raison très simple. Il dit que tous les hérétiques et tous les mécréants qui se sont multipliés ces derniers siècles dans le monde se sont fondés sur la révolution copernicienne. En effet, depuis Copernic, des choses ont changé dans le monde. Avant Copernic, eh bien, le soleil tournait autour de la Terre. Il a fallu un astronome polonais pour que tout change. Grâce à lui, maintenant, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Vous vous rendez compte de la puissance d'un homme. Et ça a beaucoup troublé les esprits, cette histoire-là. En tout cas, l'Église n'a pas supporté au début. Et vous savez que c'est seulement Jean-Paul II qui a acquitté Galilée ces dernières années.
Et pour dire.
Il l'a acquitté de l'accusation d'hérésie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pendant 400 et quelques années, Galilée était considéré comme hérétique, condamné par le tribunal de l'Inquisition, parce qu'il avait affirmé que la Terre tournait autour du Soleil. Alors, il faut expliquer que c'est... quand on disait ces choses-là, ça voulait dire... les gens, dans l'idée des gens, ça voulait dire que si, cosmologiquement parlant, le lieu d'habitation de l'homme, la Terre, n'est pas au centre du monde, ça veut donc dire que, au niveau des valeurs aussi, ce qui n'est pas légitime, enfin on peut penser comme ça, au niveau des valeurs, eh bien, le centre du monde, c'est pas l'homme. Et si le centre du monde n'est pas l'homme, pensaient les penseurs de l'époque, les religieux de l'époque aussi, eh bien ça veut dire que la religion tombe. C'est-à-dire comme si l'esprit religieux, les valeurs, la morale avaient pour fondement la centralité de l'homme. Eh bien, dit le Rav Kook, il est heureux que avant que Copernic n'ait parlé, il y ait déjà eu un rabbin 300 ans avant lui qui ait affirmé que la centralité de l'homme n'était pas le fondement de la foi. Qu'on pouvait très bien être adhérer à la Torah, aux mitzvot, à la morale, même si l'homme n'est pas au centre du monde. Donc il faut dire, Toda Rabba, Maïmonide nous a rendu un grand service, puisqu'il nous a sauvés de ces hérétiques anti-ecclésiastiques. Bon, c'est le premier point. À part ça, pour entrer dans l'intérieur du sujet, ce que dit le Rav Kook, c'est que, tout d'abord, il y a deux opinions chez les kabbalistes eux-mêmes à propos de cette idée-là. C'est-à-dire, le Rav Kook amène un passage du Etzraïm dans lequel il montre bien clairement qu'il y avait deux opinions chez les anciens kabbalistes pour savoir qui est le centre du monde. Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est autre chose? Il dit, le Rav Kook, on ne peut pas accuser les kabbalistes d'être inclinés à la philosophie grecque. Ça ne va pas. Donc, tout d'abord, le Rambam est disculpé de l'accusation d'hellénisme. Mais à part ça, le Rav Kook après nous introduit un sujet très important qui est qui a raison dans cette histoire. Et là, le Rav Kook donne ici un critère, on peut discuter de ça, mais un critère qui permet de déterminer si une opinion est vraie ou pas. C'est intéressant quand même. Les gens cherchent depuis tellement longtemps à savoir comment savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais alors, Rav Kook dit, c'est très simple. Est vrai ce qui est moral. Oh là là, c'est un peu énorme. C'est-à-dire, si une connaissance a une conséquence morale positive, elle est donc vraie. Si la conséquence morale est négative, nocive même, elle est fausse. Où est-ce qu'il a été chercher tout ça, le Rav Kook? Enfin, avant de donner une réponse à cette question... qu'est-ce que dit le Rav Kook? Il dit quelque chose de tout à fait simple. Le fait de se savoir le centre du monde, qu'est-ce que ça entraîne sur le plan moral? Eh bien, ça peut entraîner l'orgueil. D'un autre côté, ça peut entraîner la responsabilité. C'est-à-dire, si je suis au centre, je suis responsable. Mais si je suis au centre, ça entraîne l'orgueil. Maintenant, si je sais que je ne suis pas le centre du monde, ça peut entraîner deux choses. D'une part, l'humilité, c'est une bonne chose. D'un autre côté, le désespoir, puisqu'il n'y a pas de sens à ce que je fais. Donc, il y a, si on prend le positif, c'est-à-dire l'humilité et la responsabilité, il y a du bien moral dans les deux opinions. Conclusion, dit le Rav Kook, les deux sont vrais. C'est-à-dire, si il y a de la moralité dans deux opinions, c'est que la vérité est ambivalente. C'est énorme. Vous vous rendez compte ce qu'il dit le Rav Kook ? Que la vérité est égale à la moralité. Il faut quand même savoir où est-ce qu'il a été chercher tout ça. Le Rav Kook ne dit pas d'où est-ce qu'il a tiré ça, mais à mon sens, la réponse est très simple. Vous savez d'où vient le monde d'après les Juifs ? D'où est-ce qu'il vient le monde d'après les Juifs ? Hein ? D'où est-ce qu'il vient le monde ? Hein ? Le monde, d'où est-ce qu'il vient ? Il a été créé. Il a été créé. Ah voilà, voilà. Il a été créé. C'est important de le savoir. La création, c'est un acte volontaire. Il y a quelqu'un qui a voulu créer le monde. Non seulement il a voulu créer le monde, mais il n'était pas obligé de le faire. C'est-à-dire que ce n'était pas un acte nécessaire. C'est donc un acte moral. C'est de la générosité absolue. C'est donc un acte moral. Ça veut donc dire que tout ce qui existe au monde a pour origine un mouvement de moralité. Conclusion, tout dans le monde s'explique par une équation morale. Voilà, on peut dire que c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, vous voyez déjà tout de suite où est-ce qu'on va en venir. C'est-à-dire que le fait même de parler de création implique la moralité. C'est-à-dire, si on prend par exemple la thèse courante chez les Grecs, qui est que le monde n'a jamais été créé, ou bien qu'il est créé par un coup du hasard. Donc la moralité n'est pas quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qui, par accident, arrive. C'est une valeur humaine, mais ce n'est pas une valeur de l'être absolu. Tandis que si on parle d'un monde créé, ça implique obligatoirement que la morale est essentielle.
Mais de quelle morale ?
Eh bien, le fait même qu'il y ait une relation de sujet à sujet, c'est un acte moral. C'est-à-dire, le fait de parler, nous parlons, c'est un acte moral. Ce que nous disons, bon, ça, il faut déjà... de quoi est-ce que nous parlons, ça demande à être précisé. Mais le fait même que ce soit une parole qui relie entre nous, c'est déjà un acte moral. Ici, la morale dont je parle, c'est « Olam chesed ibané », que le monde est le fruit d'un acte de bonté. Or, la bonté... Et la première des valeurs morales, c'est-à-dire le fait de donner l'être à un autre. Donc de ce point de vue-là, effectivement, la moralité, c'est le fondement de la création. Maintenant, je reviens donc à l'idée de Maïmonide. Vous savez que très peu de penseurs dans le judaïsme ont admis la thèse de Maïmonide. Tous ont cherché des raisons à la création du monde. Ce qui justifie le titre de la conférence. La création, pourquoi faire ? D'accord ? Maïmonide dit « ne demande pas ». Les autres, ils disent « nous avons des raisons ». Mais là, à nouveau, ce n'est pas si simple. Nous allons étudier une partie des raisons qui ont été données par les penseurs du judaïsme. Mais ce n'est pas du tout évident, parce que, imaginez par exemple que on donne la raison de la création du monde, c'est X. Vous me direz « oui, mais pourquoi il y a eu cette raison X ?» Ben, la réponse, ce sera « parce qu'il y a Y ». Mais pourquoi Y ? Parce qu'il y a Z. C'est-à-dire, si on veut véritablement chercher une raison à la volonté de Dieu, finalement, on se casse les dents un peu. Et ça veut dire, donc, toutes les raisons qui sont données, dites-vous bien que ce ne sont pas des raisons qui vont nous expliquer pourquoi est-ce que Dieu aurait été motivé à créer le monde, ce qui est absurde, parce que Dieu n'a pas de motivation extérieure à lui-même. Mais ça vient nous expliquer comment fonctionne le monde qu'il a créé. Voilà, c'est un point important que je voulais mettre en évidence. Alors là, il y a tout un problème qui se pose. Je pense que le premier volet de notre étude est bien clair. Et là, il y a un problème qui se pose, c'est est-ce que Dieu a besoin de nous ? Est-ce que Dieu a besoin de nous ? Et là, vous avez toutes sortes de réponses. Ne serait-ce que dans la tradition juive, vous avez des textes qui semblent dire que oui. Il a besoin de nous. Et puis il y a des textes qui semblent dire que non, ben, il n'a pas besoin. Alors, on ne sait même pas quoi faire. Par exemple, vous avez dans Maseret Avot, Kol ma shebara kadosh ba'oru be'olamo, lo bara ela lichvodo. Tout ce que Dieu a créé dans son monde, il a créé pour sa gloire. Donc, il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu a besoin de quelqu'un? D'un autre côté, vous avez des textes qui disent « Quoi qu'on fasse, de toute façon, lui, il s'en fiche pas mal. » Oui, il y a un texte comme ça. « lo lakadosh ba'oru » c'est dans le Midrash. « lo lakadosh ba'oru » Qu'est-ce que ça peut lui faire à Dieu? « Shochet minatsava » c'est dans le Midrash déjà. « Shochet minatsava » ou « Shochet minahoref » que l'on abatte la bête par le cou ou par la nuque. Ça peut lui faire. « Ela lo nitnu amitzot, ela le tsaref ba'en tabriot » Les commandements n'ont été donnés que pour purifier les êtres. C'est pour leur bien, c'est pas pour Dieu. Donc vous voyez qu'il y a des textes contradictoires. Il y a un très beau texte d'ailleurs. Je ne peux pas m'empêcher de l'amener parce qu'il est très beau, bien qu'absolument incompréhensible. C'est quand on dit « Avant la création du monde », c'est dans Psikta Rabbati. Hein, dans la Psikta, un texte très ancien de l'époque du Talmud. « Avant la création du monde, Dieu avait construit une soukha, une cabane, sur le mont du Temple. » Ne me demandez pas comment est-ce qu'il y avait le mont du Temple avant la création du monde. Enfin, c'est écrit comme ça. Dieu avait construit une cabane sur le mont du Temple et il y rentrait. Et il faisait sa prière. Et il disait « Yehi ratzon milefanai » que ce soit un effet de ma volonté. Parce que, à qui il va adresser sa prière? Il n'est quand même pas idolâtre. Donc, il va s'adresser sa prière à lui-même. Yiratson milifanaï, donc que ce soit un effet de ma volonté. Sheivnuli banaï, baït bamakomazé, que mes enfants me construisent une résidence dans ce lieu. N'est-ce pas? Alors, bon, quoi, on comprend évidemment sur le plan de la logique, il y a énormément de questions. Mais en tout cas, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un vecteur de la création. C'est la rencontre avec les hommes dans le temple. Le temple de Jérusalem serait le lieu où la création aurait enfin réussi. Et en quoi elle aurait réussi? Ben parce qu'il y a une rencontre. Une rencontre entre le créateur et la créature. Ça voudrait presque donner un début de réponse à la question de notre cours. La création, pourquoi faire? Ben parce qu'il a envie de rencontrer quelqu'un. Mais alors là, il faut donner tout de suite une petite précision. Quand on dit, ça voudrait donc dire que Dieu a besoin de nous. À propos de la question, est-ce que Dieu a besoin de nous? Trois réponses ont été données. La première, c'est celle du paganisme. La deuxième, c'est celle des philosophes. Et la troisième, c'est celle de la Torah. Je vous annonce un peu à l'avance, c'est celle de la Torah qui est la bonne. Les païens, le paganisme, assujettit la divinité à l'homme. Les dieux ont faim. Ils ont besoin de nous. Il faut leur faire des sacrifices parce que sinon ils vont dépérir. Ah. C'est donc c'est Dieu, la divinité, qui a besoin de l'homme. Et les philosophes sont très opposés à cela. Ils disent, mais enfin, Dieu s'en fiche pas mal. Il n'a pas besoin de toi. Il est dans son absolue ontologie. Il se sent très bien avec lui-même. D'ailleurs, il ne sait même pas que tu existes.
C'est lui qui nous a créés.
C'est indigne de sa grandeur. D'accord? Ça, c'est ce que disent les philosophes.
Indigne des philosophes.
Et puis, que dit la Torah? Eh bien, la Torah donne une réponse en trois paragraphes. Le premier, le deuxième et le troisième. Vous allez voir, c'est intéressant. Le premier paragraphe de l'opinion de la Torah, c'est que Dieu n'a pas besoin des hommes. C'est comme les philosophes. Deuxième paragraphe, mais il a voulu avoir besoin. Troisième paragraphe, donc il a besoin, comme les païens. Et c'est très important, justement, ce paragraphe numéro 2. Vous avez remarqué que ce qui est original, c'est le deuxième. Il a voulu avoir besoin. Ça veut dire que on ne peut pas dire que d'emblée Dieu a besoin des hommes, parce que ça serait l'amoindrir. D'un autre côté, on ne peut pas dire qu'il s'en fiche pas mal parce qu'il nous a créés quand même. Donc, c'est qu'il a voulu avoir besoin de nous, Non pas parce qu'il y est obligé, mais parce qu'il l'a voulu. Et pourquoi est-ce qu'il l'a voulu? Eh bien, il l'a voulu pour nous faire du bien. Approfondissons un peu cette idée. Je sais que je vais un peu vite, mais enfin, il faut approfondir l'idée. Imaginez, par exemple, que Dieu n'est veillé qu'à notre bien-être, qu'il n'ait pas besoin de nous, que tout ce qu'il fait, c'est uniquement pour nous. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? Ça voudrait dire que nous sommes des enfants gâtés, égoïstes, dont le but est de se faire du bien, de jouir. Il y a une très belle phrase qu'on trouve dans les foyers juifs, c'est « mange mon fils ». Eh bien, on peut... « mange mon fils ». On peut dire que c'est un peu ça. C'est-à-dire, ça serait « Dieu veut nous donner, et bien on n'a qu'à prendre ». D'accord? Qu'est-ce qui nous aurait manqué? La dimension idéale. Ça serait, il y a quelque chose d'un peu immoral là-dedans. Or, la moralité est un bienfait plus grand que les jouissances de la vie. Donc, pour que nous puissions jouir également de la moralité, le Créateur a fait une stratégie extraordinaire. Il a demandé à l'homme de lui faire du bien. Ce qui fait que quand l'homme agit, il se dit « c'est pas pour moi que je le fais, mais c'est pour la gloire de Dieu ». Eh bien, à partir du moment où l'homme fait pour le Créateur et pas pour lui-même, eh bien, à partir de ce moment-là, il a reçu quelque chose, il a accédé à l'idéalisme. Vous comprenez? C'est un peu compliqué, mais enfin, c'est vrai. Ça rappelle un peu l'histoire que Manitou aimait beaucoup, c'était à propos de Rabbi Zusha. Un des grands maîtres du chassidisme, c'était le frère de Rabbi Elimelech de Lizansk, eux-mêmes étaient des élèves du Magid de Meserich, qui était lui-même l'élève du Baal Shem Tov. On raconte que Rabbi Zusha, un jour, une femme vient lui demander de prier pour qu'elle ait un enfant. Et alors Rabbi Zusha fait la prière, et puis au moment de sa prière, il entend une voix du ciel qui lui dit « Zusha, ne fais pas la prière, ne prie pas, je ne veux pas que cette femme ait un enfant ». Alors que fait Rabbi Zusha? Ben, il continue la prière. Alors il entend une voix du ciel qui lui dit « Attention, si tu continues à faire la prière, elle aura un enfant, mais toi tu n'auras pas le Olam Haba ». Alors Rabbi Zusha, très content, il dit « Enfin, je vais pouvoir accomplir les mitzvot sans l'espérance d'une récompense ». Il va devenir un peu libovitchien, c'est-à-dire... Les actes ont une valeur en elles-mêmes sans ce à quoi elles amènent. Il n'y a pas de finalité. Alors il continue la prière, il entend une voix du ciel qui lui dit « Attention, si tu continues à faire la prière, elle aura un enfant, mais ton Olam Haba, tu le recevras quand même. » Bon. La suite de l'histoire, elle n'est pas racontée, mais je pense que la suite, c'est que il a continué à faire sa prière quand même. Parce qu'il a compris que c'était un péché de ne pas vouloir son Olam Haba. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut, dans l'évolution morale de l'être, un moment où l'on fait ce que l'on fait, pas dans l'espoir de recevoir quelque chose. C'est pas pour recevoir quelque chose. Donc, on le fait de manière désintéressée. On renonce même au Olam Haba. Mais si c'est vrai, comme conception du monde, ça voudrait donc dire que le monde n'a pas de finalité. Or, ça, c'est blasphématoire, parce que Dieu, il veut te donner. Donc, par politesse, il faut recevoir son Olam Haba. C'est-à-dire, ce n'est plus par bas intérêt, par nombrilisme, parce que je m'intéresse à ma propre personne, mais c'est qu'il n'est pas digne de l'ordre du monde, de celui qui a créé le monde, que je l'empêche de donner son Olam Haba, son paradis. Et donc, on peut dire c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, Dieu a voulu que l'homme soit idéaliste, parce que c'est bien pour l'homme de l'être. Oui, chacun fait son travail. C'est-à-dire, l'homme travaille de son côté et Dieu travaille de son côté, chacun pour l'autre. D'accord? Il y a à ce propos un texte très intéressant juste avant la mort de Moshe, dans le livre de Bamidbar, quand Dieu demande à Moshe de venger les enfants d'Israël des Midianites. Les Midianites nous ont attaqués de manière très lâche avec les filles de Midian. Et donc Dieu ordonne à Moshe, écoute, il faut faire une expédition punitive. Et là-bas, Dieu dit, va venger les enfants d'Israël. Bon, d'accord. Moshe réunit une armée. Et il dit, portez-vous volontaire pour venger Dieu. C'est-à-dire, chacun dit, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Vous comprenez, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, si vous voulez, il y aurait donc une... Il y aurait d'ici une motivation morale très profonde à la création du monde. On pourrait dire de cette manière, enfin c'est ce que Manitou appelait la primauté de la moralité sur la métaphysique. J'entends par là que quand Dieu a voulu créer le monde, il s'est posé une question. Il s'est dit, je veux créer le monde, mais les philosophes ont des questions. Ils ont des objections. Même Emmanuel Kant dit dans son... dans son traité sur la critique de la raison pure, il affirme que la création du monde est une antinomie de la raison. C'est une antinomie, c'est-à-dire c'est une question qu'on ne peut pas régler. Et donc j'ai un problème, se dit le créateur du monde. Je voudrais créer le monde, mais est-ce que Kant va s'arranger avec ça? Finalement, il s'est dit, ben, je veux créer le monde pour des raisons morales. Alors, je vais le créer, et que les métaphysiciens règlent le problème plus tard. S'ils le peuvent, ils feront des doctorats. Il y a ici une primauté de la morale sur la métaphysique qui est intrinsèque à l'idée même de création. Voyez-vous ce que je veux dire? Bon, alors jusque-là, nous avons donné une grande introduction. Là, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Jusque-là, j'espère que c'était assez clair, assez simple. Et maintenant, on va rentrer dans... C'est tout à fait clair, n'est-ce pas? Ouais. Bon, nous allons donc rentrer plus profondément. Bon, prenons tout d'abord, par exemple, l'enseignement du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui a beaucoup traité de ce problème du pourquoi de la création du monde et qui nous a donné une réponse a priori simple, mais super problématique. La réponse que donne Ramchal dit, c'est très simple, Dieu est bon. Ben, comme il est bon, il veut le bien. Donc il crée quelqu'un pour lui faire du bien. Miteva hatov leitiv. Et donc, s'il est dans la nature du bien, de faire du bien, donc il a créé le monde. Ça a l'air sympa hein, comme explication. Bon, il y aurait des questions, ne serait-ce que du fait de la réalité, c'est-à-dire est-ce que tout va bien? C'est une question qu'on peut se poser. J'ai vu un texte dans le petit hebdo sur fond orange qui fait poser des questions de ce genre. Disons, il est évident que tout ira bien. Vous savez la preuve? Puisque c'est Dieu qui a créé le monde, donc ça veut dire que tout ira bien. C'est ça. Puisqu'il y a écrit dans la Torah Bereshit bara Elohim. Ça veut donc dire que si ça va mal, c'est provisoire. Ça ne peut pas être autrement. Mais enfin, l'idée de Ramchal est sympathique en soi. C'est-à-dire, Dieu est bon, donc il a créé le monde parce qu'il veut faire du bien. Et il rajoute, pour que ce bien soit un véritable bien, il faut que ce bien soit acquis, qu'il ne soit pas donné gratuitement. Et c'est la raison pour laquelle il y a des conditions à recevoir le bien, c'est justement l'équation morale. Et à partir du moment où on s'acquitte de son devoir moral, donc on a également acquis sa propre personne, donc on a véritablement mérité son être. On pourrait dire que c'est presque une tautologie, parce que c'est comme si dire créer... Ça veut dire créer un autre. Pour créer un autre, il faut qu'il soit authentiquement autre. Pour qu'il soit authentiquement autre, il faut qu'il soit lui-même l'origine de son être. Donc ça implique qu'il doit mériter. Et puisqu'il mérite, eh bien, la création a véritablement réussi. On pourrait donc dire que l'autonomie de la créature serait la finalité de la création, d'après le Ramchal. C'est très intéressant parce que c'est, d'une certaine manière, c'est une formulation opposée à celle du chassidisme de Chabad. Oui, surtout dans le Chabad, mais enfin dans le chassidisme en général, où il y a une tentation de nier l'existence du monde. Souvent on trouve ça dans le chassidisme, des explications de ce genre qui disent le monde en fait est une illusion, il n'existe pas. Il n'y a que la toute-puissance, la toute-présence du Créateur qui remplit tout. L'et atar panu imine. Et dans l'éducation chassidique, l'homme doit découvrir qu'en fait, il n'y a que Dieu qui existe, que la création n'est qu'un leurre. Et c'est en cela qu'il arrive au bonheur suprême, qu'il arrive à la rencontre avec Dieu, etc. C'est pas contradictoire dans l'absolu avec ce dit Ramchal, mais si vous voulez, la direction pédagogique est très différente. Pour le Ramchal, la finalité du monde, c'est d'arriver à exister. C'est-à-dire, ce n'est pas le néant, c'est l'être qui est le but. Je ne sais pas si vous avez remarqué la première Mishnah dans le premier texte de la Mishnah, le tout premier paragraphe. Il commence par une question sur le néant. Et la dernière Mishnah, à la fin de toutes les Shisha Sidre Mishnah, tout le Talmud, à la fin, ça finit par une réponse sur l'être. Ça commence par le néant, ça finit vers l'être. La première question, c'est est-il possible de proclamer l'unité du Créateur dans un état de néant? Vous vous rappelez, c'est la première question posée par la Mishnah, n'est-ce pas? Est-il possible de proclamer l'unité du Créateur dans un état de néant? Oui, en hébreu, « Mais matai korin shema be'arvit ». C'est ce qu'il y a écrit, non? C'est quoi Korin et Shema? Eh bien, c'est proclamer l'unité de Dieu. Mais Matai, à partir de quand? Est-ce que c'est possible? Be'arvit, c'est quoi Arvit? C'est le monde de l'obscurité, du néant. Donc, est-ce que l'on peut, étant donné que nous sommes du néant, nous sommes plongés dans le néant, est-ce que l'on peut proclamer l'unité du Créateur? Est-ce que ça a un sens? Et puis la réponse, ça prend longtemps, c'est toute la tradition orale, toute la Torah chez Al-Té, c'est dans la Mishnah. Et puis ça, c'est toute la Torah en fait. Et puis après, ça finit par une Mishnah qui nous dit Atid Akadosh Baruch Hu Le'anchil Lechol Tzadik Vetzadik Shai Olamot. C'est-à-dire, viendra un temps où Dieu donnera en cadeau à chaque Tzadik 310 mondes. Pourquoi 310? Parce que c'est la gématria du mot Yesh, qui veut dire l'être. Il y a. C'est-à-dire, s'il y a un but, c'est de passer du néant à l'être. Souvent, dans la pédagogie chassidique, on sent un peu le contraire. C'est de passer de l'être au néant, à la conscience du néant. Si on réfléchit bien, il semble qu'il n'y a pas vraiment de contradiction, si vous voulez, absolue entre ces deux pédagogies, mais c'est un peu différent quand même. Ça, si vous voulez, donc, c'est l'opinion du Ramchal. Mais il y a une objection philosophique extrêmement grave que l'on peut faire au Ramchal. Comment? S'il est vrai que Dieu a créé le monde parce qu'il est bon, ça voudrait donc dire qu'il est obligé de créer le monde. Il aurait une nature. Et en tant qu'être de nature, il serait obligé, il serait contraint par sa nature à créer le monde. Vous vous rendez compte de l'énormité grecque, aristotélicienne, de cette affirmation. Alors il faut donc trouver une réponse. La réponse du Ramchal lui-même, dans un de ses ouvrages, le Date et vous note, c'est que le fait que, puisque Dieu est bon, ça implique qu'il fasse le bien, cette règle a été voulue par Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait une règle, que le bien engendre le bien. Il n'était pas obligé de le vouloir, cette règle. Alors la question que pose le Ramchal, alors pourquoi est-ce qu'il l'a voulu? Le Ramchal répond, parce qu'il a voulu révéler sa toute-puissance. Et c'est-à-dire qu'il y aurait une raison plus secrète de la création du monde, c'est la volonté qu'a Dieu de manifester qu'il est le seul. Intéressant. Et pour ce faire, donc il faut qu'il y ait des opposants à sa volonté pour que sa gloire soit manifestée par ses opposants. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de gloire. Très intéressant. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Dieu a voulu manifester sa gloire? Il va falloir trouver une raison à la raison. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Quand on donne une raison, il faut trouver une raison de la raison. Et puis après, une raison de la raison de la raison. Et puis alors là, on arrive à des considérations extrêmement... disons, difficile à avaler, qu'on trouve chez certains kabbalistes d'Italie, entre autres. Le Emek Ameller, par exemple. Chez les kabbalistes italiens, il y avait une notion qui tournait un peu, qui a ses origines dans des textes plus anciens, c'est que la création du monde serait un jeu. Un jeu. Shashua. Un jeu. Un amusement. C'est un jeu qui coûte un peu cher, hein, enfin, un jeu. Oui, mais vous savez, imaginez par exemple quand vous rêvez, vous rêvez de quelqu'un. Est-ce que la personne que vous inventez dans votre rêve a une existence réelle? C'est comme si nous étions des personnages dans un rêve, et puis que nous rêvons et que nous y prenons très au sérieux. Il y avait un livre à ce propos de Lewis Carroll, le mathématicien, qui était également un écrivain, qui a l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Et il a écrit plusieurs livres sur Alice. Un des livres sur Alice, c'est « De l'autre côté du miroir ». Bon, alors, de quoi s'agit-il? Ben, c'est Alice qui s'endort avec un chat sur ses genoux, en face d'un miroir. Et puis elle rêve. Elle rêve qu'elle tombe dans le miroir et qu'elle passe de l'autre côté. Et elle arrive dans un monde... Ah oui, il y a aussi un jeu d'échecs sur la table. Et puis elle tombe, elle devient un pion sur le jeu d'échecs. Et alors, le jeu d'échecs est un pays énorme, gigantesque, avec des forêts, des fleuves, des montagnes, des personnages. Elle devient un pion rouge. Non, un pion blanc, pardon. Un pion blanc. C'est les rouges contre les blancs. Alors elle devient un pion blanc dans le jeu d'échecs. Et puis dans ses pérégrinations, elle rencontre entre autres le roi rouge. Ça veut dire qu'elle lui fait échec. Échec au roi. Et elle découvre que le roi est endormi au pied d'un arbre. Et donc si elle lui fait échec, elle va le réveiller. Alors tout le monde lui dit, attention, attention, ne réveillez pas le roi. Ah bon, pourquoi il ne faut pas le réveiller? Parce que si vous le réveillez, nous allons tous disparaître, parce que nous sommes des personnages dans son rêve. Bon, elle dit, bon d'accord, donc elle ne fait pas échec, elle continue sa route, enfin, etc. Et d'ailleurs, quand on étudie bien d'en haut, qu'est-ce qui se passe? Elle rencontre la reine, le cavalier, la tour, enfin, des tas de choses. Finalement, elle fait maths, sans s'en rendre compte. Et tout le monde dans lequel elle est disparaît. Il y a un tourbillon, ça disparaît, et elle revient de ce côté du miroir. Et elle se dit, ah, alors ce n'était qu'un rêve. Mais qui a vraiment rêvé? Est-ce moi ou le roi rouge? C'est comme ça que finit le livre. Bon, c'est une très belle histoire, c'est très joli, mais il faut la prendre au sérieux, cette histoire. Vous savez, dans le Shirashirim, Dieu est considéré et comparé à un roi rouge, Dodi, Tsar, Ve'adom. Et... oui. Et là, il y a, effectivement, la question est très forte. Est-ce que nous ne serions pas, finalement, dans un énorme rêve? Ça n'a aucune importance, d'ailleurs, parce que pour nous qui sommes dans le rêve, la réalité, c'est la réalité. D'accord? C'est très sérieux. Mais enfin, il y aurait, disons, un niveau de contemplation de la réalité qui ferait que le monde entier serait une sorte d'amusement. Or, l'amusement, c'est quelque chose de très sérieux. Parce que l'amusement, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas de besoin. C'est-à-dire, quand on a faim, par exemple, eh bien, on mange. Et puis, quand on est rassasié, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse. C'est-à-dire, c'est ce qui est au-delà des nécessités. C'est-à-dire, en hébreu, par exemple, le chiffre 7 désigne quand on est rassasié, la satiété. C'est pas? En hébreu, sheva, savea, c'est la même chose. Quand on mange plus que ce qui est nécessaire, on devient gros, chamène. Le chiffre 8, shmone. Mais c'est vrai que quand on épaissit, quand on grossit, c'est vrai qu'on n'en avait pas besoin, c'était pas une nécessité vitale. Mais ça fait qu'on a quand même un peu faim. Mais quand on n'en peut plus, eh bien, on sort le chèche-bêche, le jaquet, c'est-à-dire on commence à jouer. Et c'est le chiffre 9, teisha. Teisha, en hébreu, c'est-à-dire s'amuser, shashua, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y aurait une recherche d'une raison qui ne serait pas obligatoire. C'est-à-dire, dans l'amusement, il y a cette idée que rien n'est obligatoire. Et bon, c'est une très belle idée, mais elle est difficile à comprendre, parce que dans la réalité que nous vivons, on ne comprend pas ces choses-là. Mais enfin, ça existe. En fait, si on pouvait chercher quelque chose qui expliquerait ces trois raisons que j'ai données. Dieu en tant que bon, Dieu en tant que voulant manifester sa gloire, et Dieu en tant que voulant s'amuser. C'est-à-dire, si vous voyez bien, ça correspond aux trois chiffres que j'ai donnés, 7, 8 et 9. On pourrait trouver une sorte de dénominateur commun. Le dénominateur commun, On peut le trouver dans le livre de Vayikra, au chapitre 19. Au chapitre 19. Vous avez un texte dans lequel Dieu donne la finalité de toute la Torah. D'après Maïmonide, ce texte-là donne la finalité de toute la Torah. D'abord, El Kol Adad Bnei Israël est mort, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël pour leur dire Kedoshim Tihiyu, soyez saints. Bon, sans trop savoir ce que ça veut dire soyez saints. Maïmonide dit, si vous accomplissez toutes les mitzvot, finalement vous serez saints. Et pour quelle raison? Ki Kadosh Ani, car je suis saint. Ah bon? Et alors? Ça veut dire quoi ça? Soyez saints car je suis saint. C'est comme si Dieu voulait dire. Si ce n'était pas écrit, on ne pourrait pas le dire, mais c'est écrit. Je suis le seul à être saint pour l'instant, je m'ennuie. Soyez saints, vous aussi, comme ça nous pourrons jouer ensemble. C'est cette volonté, donc il y a une rencontre. Or, il y a deux sortes de rencontres. Il y a des rencontres parce qu'on a besoin de parler de quelque chose. Par exemple, on a à régler des affaires, alors il faut qu'on se rencontre, etc. Et puis il y a des rencontres pour le plaisir de se rencontrer. C'est beaucoup plus profond. C'est de l'être à l'être. Eh bien, c'est comme si c'était un peu ça que ça voulait dire. La création du monde, pourquoi faire? Eh bien, pour se rencontrer. Ça ressemble beaucoup à ce que dit Maïmonide, mais par une autre. C'est par la porte de service. Bon, on peut évidemment aller plus loin. On peut chercher, par exemple, les interprétations qui ont été données par des kabbalistes, par exemple. Les kabbalistes disent des choses un peu énormes aussi à nouveau. Je suis désolé de ne pas arrêter de dire des choses énormes ce soir, mais enfin le sujet est un sujet de ce genre. Par exemple, Rabbi Meir Ibn Gabay, un des grands maîtres du judaïsme espagnol au XVe siècle, disait que le problème de Dieu, c'est qu'il est infini. Or, l'infini doit inclure, doit comprendre en lui le fini. Donc il faut bien qu'il crée le monde. Ou bien le Baal HaTanya disait Dieu est illimité, donc il faut bien qu'il introduise la limite. Le Rav Kook va plus loin. Le Rav Kook dit le problème de Dieu, c'est qu'il est parfait. Donc qu'est-ce qu'il n'a pas? Le perfectionnement. C'est-à-dire, quand on est parfait, c'est immobile, c'est statique. Se perfectionner, c'est un mouvement. On ne peut pas réduire la grandeur du Créateur à la station, au statisme, il faut également introduire le mouvement. Alors là, il y a une petite critique que fait le Rav Kook contre la philosophie de Bergson à ce propos, c'est-à-dire que Bergson ne considérait comme existant que le mouvement, ce qu'il appelle l'élan vital, sans finalité de perfection à la fin. Mais Rav Kook dit, une pensée qui ne verrait que la perfection humaine, que la perfection divine, ou qui ne verrait que le perfectionnement, serait insuffisante. Il nous faut les deux à la fois. C'est ce qu'il appelle en hébreu, Shnei Erchei Hashlemut, les deux valeurs de perfection. Quelles sont les deux perfections? Eh bien, c'est la Shlemut et la Ishtalmut. Il y a une perfection de la perfection, il y a une perfection du perfectionnement. Et donc, il fallait que le monde soit créé pour ajouter le perfectionnement à sa perfection. Bon, c'est très joli, mais revenons un peu sur terre. Revenons un peu sur terre. Il est intéressant. Non, mais c'est important d'étudier ces choses-là pour savoir ce que nous faisons ici, quand même. Savoir ce qu'on fait ici. Eh bien, nous sommes ici pour perfectionner, nous sommes ici pour ajouter la limite, nous sommes ici pour recevoir le bien du Créateur, pour proclamer sa gloire. Beaucoup de choses s'élucident à travers ces réflexions-là. Et puis, il y a une fête dans l'année où nous revenons en arrière, nous revenons au temps de la création. C'est Rosh Hashanah. Et comment est-ce qu'on revient à ce temps-là? Eh bien, par le souvenir. Ça s'appelle Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Bon, c'est pas. Il y a plusieurs mots pour dire le souvenir en hébreu. On dit parfois Zikaron. On peut dire également Zecher. Par exemple, le jour du Shabbat, on dit Zecher Liitziat Mitzrayim. C'est à chaque fois qu'on parle de la sortie d'Égypte, on dit Zecher. Mais quand on parle de la création du monde, dit Zikaron. C'est quoi le on à la fin de Zikaron? C'est un diminutif. C'est une petite. Oui, un diminutif. Oui. Doubon, un petit ours. Un ours d'ov, Doubon, un petit ours. D'accord? Et donc, en hébreu, le on, c'est un diminutif. Donc, Zikaron, ça veut dire une petite mémoire. Petite mémoire. Ben oui. Parce qu'on ne peut pas se souvenir de la création du monde. Se souvenir de la sortie d'Égypte, on peut. Vous savez pourquoi? On y était. Enfin, on y était collectivement, c'est-à-dire pas personnellement, mais collectivement, on y était.
Sharon, c'est un petit chat.
Exactement. Sharon. Un petit chat. Oui. C'est ça.
C'est quand on... Sharon, c'est un petit chat.
Oui, c'est ça.
C'est un petit chat.
Un petit char, effectivement, vous pouvez réfléchir vous-même ce que ça donnerait. Et donc, il y a une petite mémoire. Pourquoi une petite mémoire? Et bien parce que la création du monde, on n'y était pas. Et dans la sortie d'Égypte, on y était. Or, se souvenir de là où on n'était pas, c'est presque impossible. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle quand même? Parce qu'on s'en rappelle quand même un peu. Alors, comment est-ce qu'on peut se rappeler de là où on n'était pas? Parce qu'on vient de là-bas. Je vais raconter, c'est une histoire bien connue de Rabbi Nachman de Breslav. Vous connaissez l'histoire à Maïsef und sein Bettlers? Vous ne connaissez pas? Oh, à Maïsef und sein Bettlers. L'histoire des sept mendiants. L'histoire des sept mendiants. Hein? Oui, c'est une histoire bien connue de Rabbi Nachman. Bon. Oui. Non, Zain là-bas, c'est la lettre hébraïque, Zain. Qui veut dire 7, pas Zibben, qui veut dire 7. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Zain Bettlers. C'était son style. C'est pas que je ne sais pas parler l'Yiddish. À part ça, je ne sais pas parler l'Yiddish. Bon. Mais. Ça n'en finit pas. Mais dans l'histoire des sept mendiants, qui est une très belle histoire, c'est une histoire très longue, hein, c'est à quelque chose comme 50 pages. C'est une histoire à tiroir, c'est-à-dire c'est une histoire au sein d'une autre histoire qui se mélange avec d'autres histoires, il y a des molécules d'histoire, des toutes petites histoires au sein de grandes histoires, etc. Bon. Alors, une des molécules d'histoire là-bas, c'est l'histoire d'un naufrage. Bon, tout ça sont des paraboles, le symbolisme est énorme chez Rabbi Nachman. Alors, il y avait un navire qui a naufragé. Incroyable. Je crois que c'est le dernier là.
Mais non, il y a encore celui-là.
Microphone.
Oui, il y en a un qui a pas sauté encore.
Bah celui-là.
Non, pour l'instant ça va. Il y a donc une des histoires, c'est il y avait un bateau, un navire qui a naufragé et qui s'est brisé dans la mer. Et les rescapés arrivent à la nage sur une île. Dans l'île, il y a une tour. Ils montent dans la tour. Ils arrivent au toit de la tour. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on va jouer. Ils vont faire une compétition, un concours de mémoire. Ils vont voir qui est-ce qui a la plus grande... Ah, voilà, il y en avait encore. Qui est-ce qui a la plus grande mémoire? Et il faut un arbitre au jeu. Alors l'arbitre vient, c'est le grand aigle, la grand aigle qui arrive à Necher Agadol pour juger de qui a la plus grande mémoire. Et alors il y avait là-bas un vieillard, le plus vieux de tous, qui a dit, moi je me rappelle lorsqu'on a détaché le fruit de l'arbre. Alors tout le monde... Paf, ah, quelle mémoire! Et alors il y avait là-bas un autre qui était vieux aussi, mais un peu moins, qui dit, moi, je me rappelle du temps où le fruit était sur l'arbre. Alors l'aigle dit, c'est vrai, il a plus de mémoire. Et tout le monde était étonné, comment? Puisqu'il est plus jeune, et comment il se rappelle de choses plus anciennes. Et le troisième, qui était un peu plus jeune quand même, enfin quand même assez vieux, a dit, moi je me rappelle du temps où la lumière était allumée. Alors là, vraiment, ça arrive à son paroxysme. Et puis le quatrième, à chaque fois, ils sont un peu moins vieux. Et le quatrième dit, moi, je me rappelle du temps où la graine a été mise dans le terrain. Et le cinquième, c'était un des sept mendiants, justement, qui a dit, moi, j'étais encore un enfant. Et j'ai dit, je ne me rappelle de rien. Et alors, l'aigle a tranché en ma faveur en disant, c'est lui qui a le plus de mémoire de tous. Parce qu'il se rappelle du temps où il n'y avait encore rien. C'est-à-dire, bah oui, quand le fruit a été coupé de l'arbre, il se rappelait du moment où on a coupé son cordon ombilical. Et puis l'autre se rappelle encore du temps de sa naissance, quand il était encore relié au cordon. Et puis celui qui a la lumière allumée, c'était quand il était un embryon, un fœtus. Et puis celui qui se rappelait de la graine, c'était le moment de la semence, oui, enfin de la conception. Et celui qui ne se rappelle de rien, ben il se rappelle qu'avant d'être, il n'était pas. Et donc, l'aigle dit, mais c'est parce qu'il est plus vieux que tous. Parce qu'il n'a même pas encore commencé à vivre, il est au-delà du temps. Enfin, bref. Et il dit, et le mendiant dit au marié et à la mariée, parce qu'il y a un marié et une mariée dans cette histoire, je vous donne en cadeau pour votre mariage de vivre aussi longtemps que moi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, quand il veut revenir à son origine, doit se demander quelle est son origine, c'est-à-dire quel est le point d'origine où il se reconnaît. Et il y a donc une possibilité de se souvenir de ce néant. C'est ça qu'on fait le jour de Rosh Hashanah. Et c'est très dangereux parce que le néant, ben on risque de disparaître, d'être englouti, vous comprenez? C'est la Midat Hadin. C'est pour ça qu'il y a le shofar qui vient renverser la Midat Hadin pour en faire une Bet Harachamim, pour que du néant arrive l'être, que de la rigueur vienne la miséricorde, qui est la vie, finalement. Mais il y a ce moment, avant la sonnerie du shofar, où on sent que quelque chose de mystérieux est en train de se faire, un moment de silence. C'est un moment de néant. Et puis après, c'est brisé par le son du shofar, et puis alors quelque chose... c'est la Midat Harachamim qui l'emporte sur la Midat Hadin et le monde peut être créé à ce moment-là. Et donc il est important, une fois par an au moins, de revenir, c'est ce qu'on appelle une convocation. On est convoqué devant soi-même, enfin devant son origine. Il est important de se rappeler qu'avant d'être dans ce monde, eh ben, on n'y était pas. Et donc, ce qui se passe ici sur Terre ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi puisque nous sommes nouveaux dans ce monde. Et on peut dire que l'enseignement de Rosh Hashanah, ça nous apprend à avoir un regard de fraîcheur, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire de savoir que la vie commence à chaque instant. À chaque moment, nous passons du néant à l'être. Nous passons donc à un enjeu qui va finalement nous amener à une rencontre face à face, un dialogue avec celui qui a créé le monde. Voilà, merci de votre attention.